un certain rôle qui a été joué pendant des siècles, disons même 2500 ans, par ceux qu'on pourrait appeler les travailleurs de l'universel, et qui doivent, c'est à ça qu'ils doivent le nom d'universitaire aujourd'hui, pose aujourd'hui problème. N'est plus du tout évident, et je crois que les universitaires, disons les écrivains, les philosophes, comme les artistes et comme les scientifiques, doivent aujourd'hui se poser gravement la question du politique, à nouveau frais. Car je pense que sur le plan de ce que, en reprenant une expression d'Hannah Arendt, j'appellerais la vie de l'esprit, j'aurais pu aussi parler de Paul Valéry, mais auquel je me réfère très souvent en ce moment, quelque chose est en train de se passer de très grave, dont on a parlé dans une, par exemple, dans une pétition qui avait été diffusée par les Inrecuptibles l'année dernière, que je n'ai pas signée. Je ne l'ai pas signée pour diverses raisons. Je ne l'ai pas signée parce que d'abord je suis personnel politique et enfin, personnel public, et c'est un peu délicat pour moi de mettre mon institution en question en signant à mon nom quelque chose qui était un peu contre le gouvernement actuel. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas signé, en fait. C'est parce que je pense que la question n'était pas bien posée, même si la question était une vraie question. Il y avait une pétition qui s'appelait contre l'anti-intellectualisme d'État. Il y a effectivement, je crois, on peut le dire, quelque chose de cet ordre-là en ce moment, malheureusement pas seulement en France, un peu partout. Mais en même temps, je pense que la question est beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave que celle-là. C'est de ça dont je vais essayer de parler ce soir. J'ai une thèse en ce moment que je déroule depuis 2 ou 3 ans. C'est un peu lié à mon activité à l'IRCAM actuellement, qui fait que je suis beaucoup plus proche maintenant du monde artistique et des problématiques qui relèvent, disons, de ce que j'appelle moi l'expérience du sensible. On appelle ça en général l'esthétique, mais je préfère parler du sensible, je dirai pourquoi tout à l'heure. Cette thèse, c'est que nous sommes en train de vivre un processus de rupture, je le crois, qui constitue une rupture par rapport à une histoire que je n'hésite pas, ça va vous sembler peut-être incroyable, mais à dater de 40 000 ans. 40 000 ans, c'est la grotte Chauvet. Je crois que depuis au moins 40 000 ans, et même dans le prochain livre que je vais sortir bientôt au printemps, je dis même depuis Néandertal, c'est-à-dire depuis 300 000 ans, l'existence humaine a été structurée par un partage, par une distinction capitale ou cardinale, disons plutôt, entre 2 sphères qui relèvent de ce que chez les Latins on appelait l'osium, et qui, j'essaierai d'expliquer pourquoi tout à l'heure, est, je crois, l'existence en acte, l'existence par excellence. Et d'autre part, ce qu'on appelle le negotium, d'où vient le mot négoce, qui est la condition de l'existence, mais qui n'est, sans quoi il n'y a pas d'existence, mais qui est aussi ce dans quoi l'existence peut se perdre. Et je crois qu'en ce moment, nous vivons une époque qui, structurellement, tend à annuler cette différence entre l'osium et le négotium. C'est-à-dire entre ce que j'appellerai tout à l'heure, je le développerai, l'existence et la subsistance. Depuis pratiquement l'origine de l'humanité, la vie a reposé sur l'affirmation d'une différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Les universitaires dont vous me parliez tout à l'heure, il fut un temps où on ne les appelait pas les universitaires, on les appelait les clercs. Et on ne les appelait pas d'universitaires parce qu'il n'y avait pas d'université. Mais il y avait en revanche une catégorie de la société qu'on appelait les clercs, qui pouvaient être des juristes, des religieux, des artistes, des scientifiques, des philosophes, et qui constituaient une sphère expérimentant quelque chose qui est de l'ordre de ce que je désignerai tout à l'heure comme la consistance des choses. Cette sphère, elle était en particulier structurellement coupée du monde de la production. Et cette coupure du monde de la production tenait au fait que, comme le dit Aristote par exemple à propos de l'esclave, pour accéder à une certaine expérience de l'esprit, il faut pouvoir se libérer des contraintes de la subsistance. Alors, c'est une question extrêmement complexe que je survole là à toute vitesse et qui mérite beaucoup de longues analyses pour montrer que les choses sont plus complexes qu'une simple coupure entre ces deux mondes. Mais en tout état de cause, cette organisation qui s'est traduite de très diverses manières dans les sociétés et ce qu'on appelle les civilisations, et avant même les civilisations, parce qu'à l'époque de la grotte Chauvet, on n'est pas affaire encore à ce qu'on appelle des civilisations, cette coupure, cette structuration sur des plans différents, c'est ce qui constituait ce que je vais analyser ce soir comme une économie de la sublimation. Donc ce soir, je vais vous parler de la sublimation, de la singularité, comme je l'ai annoncé, mais aussi de la sublimation. Aujourd'hui, nous vivons dans ce que j'ai appelé l'époque du capitalisme hyper-industriel. Le capitalisme hyper-industriel, je préciserai un peu plus tard ce que j'entends par là, c'est aussi ce que Gilles Deleuze a appelé les sociétés de contrôle. Dans les sociétés de contrôle, toute l'existence humaine devient l'objet d'un investissement industriel et donc d'un calcul. Et je pense que cette situation du capitalisme hyper-industriel, qu'on appelle aussi le capitalisme culturel, qui est notre lot, notre condition contemporaine, est une situation limite qui conduit à un processus d'effondrement. Je crois que nous sommes dans une situation d'une gravité sans précédent, qu'aucune société n'a jamais connue. Et que face à cette situation, nous, alors qui est ce nous? Vaste question. En tout cas, nous, les intellectuels, les universitaires, les philosophes et les artistes, nous devons désormais livrer un combat. Et l'enjeu de ce combat, c'est de sauver le symbolique. Ce que j'appelle le symbolique ici, je l'entends à la fois au sens où Cassirer, par exemple, le philosophe allemand Ernst Cassirer, a parlé du symbolique. Je l'entends au sens où Lévi-Strauss a pu parler du symbolique. Mais je l'entends aussi au sens où Lacan a parlé du symbolique. Et je dirais que le symbolique, c'est d'abord le pouvoir et le désir de s'élever. Et que ce pouvoir et ce désir de s'élever, c'est ce qui fait l'objet d'une culture. J'emploie le mot culture au sens où dans culture il y a le culte. C'est ce qui doit être cultivé. Et ce, par rapport à quoi il faut développer des pratiques que l'on a appelées pendant des siècles des cultes, pas nécessairement religieux. Et si je crois qu'aujourd'hui un combat doit être livré tout à fait inédit à cet égard, c'est parce que je crois aussi qu'actuellement, le capitalisme, dans sa forme actuelle, développe une politique systématique, je dirais pas délibérée, mais systématique. On peut faire des choses systématiquement sans le faire de manière délibérée. une politique systématique d'avilissement et de grégarisation. Et ça, c'est ce qu'on appelle le capitalisme culturel. Bizarrement. C'est ce que Jeremy Rifkin a appelé le capitalisme culturel. Alors, tout à l'heure, je disais que ça correspondait à ce que Deleuze a appelé les sociétés de contrôle. Gilles Deleuze a dit dans un texte qui parut en 1990 dans une revue, qui s'appelait L'Autre Journal, que à ce que Michel Foucault avait appelé les sociétés disciplinaires, était en train de se substituer une nouvelle forme de société qu'il appelait donc, après en fait Burroughs, la société de contrôle. Je ne vais pas commenter les analyses de Deleuze sur ce que sont les sociétés de contrôle, je vous recommande de le lire, c'est très très intéressant et riche. Mais je vous dirais simplement que pour ma part, je crois que les sociétés de contrôle sont essentiellement constituées par le fait que depuis un siècle environ, et c'est à ce moment-là que les sociétés de contrôle ont commencé à se mettre en place, même si elles ne se sont véritablement caractérisées, installées, et sont devenues, la norme du monde industriel, ces sociétés de contrôle sont des sociétés de contrôle de la libido. Depuis un siècle, le capitalisme vise essentiellement à prendre le contrôle de la libido. Et je crois que cette prise de contrôle de la libido, c'est-à-dire de la singularité, parce que la libido, c'est ce dont l'objet est la singularité, quel que soit cet objet. Alors l'objet de la libido, on croit souvent que c'est l'objet sexuel. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure, c'est un objet de la libido, l'objet sexuel. L'objet de la libido, c'est l'objet de tous les investissements du désir humain. Le cinéma, l'architecture, la peinture, la politique, le droit, la famille, la religion, tout. Tout ce qui constitue finalement ce qu'on pourrait appeler d'un vieux mot qui peut paraître poussiéreux, mais dont je crois qu'il faut le revisiter en profondeur, tout ce qu'on peut appeler l'esprit. Car finalement, l'objet fondamental de la libido, c'est l'esprit. Voilà ce que je vais essayer de développer. Et je crois que les sociétés hyper-industrielles, qui sont donc des sociétés de contrôle, qui tendent à exploiter la libido, sont des sociétés décadentes. J'ai publié un livre récemment qui s'appelle « Mécréance et discrédit », dont le sous-titre est « La décadence des démocraties industrielles ». Et je pose qu'en effet, nous vivons dans une société décadente. Je sais que ce mot de décadence est un mot lourd, qui est souvent employé par la réaction, et même par l'extrême droite.
Un peu Académie française, oui, c'est vrai.
Ça peut sonner dans ce sens-là, mais d'abord, c'est un mot central de la pensée de Nietzsche, et Nietzsche est un de mes principaux interlocuteurs. Et d'autre part, l'histoire des civilisations humaines est l'histoire de la décadence et aussi de la grandeur de l'humanité. La décadence est un processus permanent dans l'histoire de l'humanité. Je pense que c'est dans les moments les plus décadents qu'on ne veut pas entendre parler de la décadence. Pourquoi dire que les sociétés industrielles dans lesquelles nous vivons sont condamnées à la décadence? Eh bien, ma thèse, c'est que ce sont des sociétés qui, parce qu'elles reposent sur l'exploitation industrielle de la libido, détruisent cette libido. Parce que la libido a pour objet le singulier, c'est-à-dire l'incalculable. Or, l'exploitation industrielle de la libido, c'est l'application du calcul à la libido. C'est donc la destruction de cette libido. Mais la destruction de la libido, c'est plus profondément la destruction de ce que j'appellerais maintenant les dispositifs de sublimation. Or, les dispositifs de sublimation sont les dispositifs de constitution du social. Le social, c'est de la sublimation. Ça, c'est une thématique bien connu de ceux qui ont un peu lu Freud. C'est un point qui a été peu développé par Freud, d'ailleurs. Laplanche et Pontalis, par exemple, qui ont écrit le vocabulaire de la psychanalyse, ont souligné que finalement Freud n'a jamais développé une véritable théorie de la sublimation, mais en même temps, Freud a toujours inscrit la question du désir dans la question de la sublimation. Et je pense que la psychanalyse doit aujourd'hui profondément revisiter la question de la sublimation. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, si jamais on a une discussion, peut-être que j'aurai l'occasion de préciser un peu cette question du rapport entre Freud, la psychanalyse et la sublimation, et comment elle se pose aujourd'hui à nouveau frais. Quoi qu'il en soit, je vais développer un peu ces points maintenant, tous ces points que j'ai annoncés en introduction. Le contrôle de la libido, le contrôle industriel, il y a toujours eu un contrôle de la libido. Les églises servent au contrôle de la libido, les pouvoirs politiques servent au contrôle de la libido, mais le contrôle industriel de la libido, c'est-à-dire le contrôle de la libido par l'économie, et non plus par la sphère des clercs, précisément, commence au début du XXe siècle. Et il commence précisément aux États-Unis. Et il se met en place pour répondre à une question que Marx avait posée au XIXe siècle, et qui est une question qui se pose au capitalisme, intrinsèquement, comme Marx l'avait théorisé donc dans Le Capital. Cette question, c'est ce que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Qu'est-ce que ça signifie, la baisse tendancielle du taux de profit? Ça signifie que le capitalisme est condamné à la crise de la surproduction. C'est une façon un peu rapide de dire ce que c'est que la baisse tendancielle du taux de profit, mais dans la réalité historique de l'histoire économique du capitalisme, c'est ça. Structurellement, le capitalisme est confronté à une contradiction interne qu'il entre inéluctablement dans des cycles de crise par surproduction. Marx avait anticipé une crise de surproduction du capitalisme à la fin du XIXe siècle, qui a effectivement eu lieu, mais qui s'est résolue, et qui s'est résolue par la Première Guerre mondiale, car c'est souvent comme ça que le capitalisme résout les problèmes de surproduction. Cependant, cette résolution par la guerre, qui évidemment est une solution entre guillemets, parce qu'elle est extrêmement coûteuse à tous égards, et vous savez sans doute que la Première Guerre mondiale a mobilisé la science, la technique, l'industrie à un niveau absolument sans précédent, qui fait que des gens comme Paul Valéry ou Edmund Husserl ont dit que l'esprit européen avait muté avec la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que tout à coup l'activité des scientifiques, l'activité de l'esprit avait été essentiellement mise en œuvre pour la destruction. Donc cette Première Guerre mondiale est une rupture déjà en elle-même, que Valéry a souligné, et c'est là qu'il a dit « les civilisations sont mortelles ». Donc cette Première Guerre mondiale n'a résolu aucune question, puisque à peine 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, a eu lieu la fameuse crise de 1929 qui est arrivée quelques années plus tard en Europe et qui a engendré la Deuxième Guerre mondiale. Cela étant, ces faits confirment des problèmes structurels du capitalisme par rapport auxquels, en Amérique du Nord, vont se développer des tentatives de réponse qui vont consister à poser que si il y a des problèmes de surproduction, alors la question du capitalisme n'est plus la production à proprement parler, ça c'est une question qui a été résolue au XIXe siècle en fait, par la prolétarisation des travailleurs, mais la question devient la consommation. Ici, un personnage est extrêmement intéressant, qui s'appelle Edward Bernays, qui est le neveu de Freud lui-même, et qui, en 1917, a travaillé pour l'État fédéral américain pour expliquer au pouvoir américain qui voulait entrer dans la Première Guerre mondiale et qui avait besoin de convaincre son opinion publique de le suivre dans cette décision contre l'isolationnisme traditionnel des États-Unis, qu'il fallait développer une technique de persuasion relevant de ce que, à l'époque, on appelait les public relations, enfin que Bernays a appelé comme ça. Et Edward Bernays disait, pour développer les techniques de public relations, il faut mettre en œuvre la théorie de mon oncle, Sigmund Freud, la théorie de l'inconscient et de la libido. Et c'est surtout au moment de la crise de 29 qu'il va s'illustrer avec cette théorie et cette technique qui va devenir ce qu'on va appeler plus tard le marketing, lorsque il va, vers 1929, donc 1930, approcher un cigarettier, Philip Morris, qui, comme tous les industriels américains de cette époque-là, a des problèmes économiques très graves, et il va dire à ce fabricant de cigarettes, vous avez une possibilité de passer cette crise économique, c'est d'utiliser le symbole phallique qu'est la cigarette pour convaincre les femmes de se mettre à fumer. Puisqu'à l'époque, aux États-Unis, les femmes ne fument pas, l'Amérique du Nord est un pays puritain, et Bernays va mettre en œuvre toute une mise en scène phallique, avec des défilés phalliques à New York, qui vont être couverts par les médias, etc. Et il va véritablement convaincre les industriels, puisqu'après il va travailler dans toutes sortes de domaines, du fait que par l'inconscient, par la maîtrise de l'inconscient et par la maîtrise de la libido dont l'inconscient est le siège, il est possible de lutter contre la surproduction. Ce processus va se développer au long du XXe siècle d'une manière colossale. Et c'est pour capter le temps des consciences individuelles et la libido dont ces consciences sont porteuses que les industries culturelles vont se déployer. À la fin du XXe siècle, le monde entier est couvert de réseaux de radio, de télévision, qui sont donc des industries culturelles, dont le métier, comme vous le savez bien, ça a été dit de manière très claire par un grand patron de télévision français, voilà, Patrick Lelay, dont le métier est, dit Patrick Lelay, de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Voilà. En fait, le métier de Patrick Lelay, mais de toute activité des industries culturelles, c'est de capter l'énergie libidinale des consommateurs pour orienter cette énergie libidinale vers les produits de la consommation industrielle. Sachant que Freud a été très convaincant et très explicite sur ce point, l'énergie libidinale dont nous sommes porteurs est limitée. Elle n'est pas infinie. Nous avons l'impression qu'elle est infinie. Si par exemple nous tombons amoureux de quelqu'un, nous ne sommes amoureux véritablement, nous ne connaissons cette expérience de l'amour que si nous avons le sentiment que l'amour que nous avons pour ce quelqu'un est infini. Mais c'est un fantasme. Quand je dis que c'est un fantasme, je ne veux pas dire que ça n'est rien et que ce fantasme est une pure illusion vaine. Non. Ce fantasme donne une énergie qui peut être colossale. Néanmoins, c'est un fantasme. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous captez l'énergie libidinale d'un individu au travail, par exemple, en développant la suractivité, c'est le problème des cadres supérieurs, vous enlevez une partie de sa libido à ses investissements affectifs, familiaux, etc. Et en général, ça finit par causer des problèmes familiaux et affectifs graves. C'est un très grand problème de notre époque. Beaucoup étudié aujourd'hui par les spécialistes du management, etc., de ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Quoi qu'il en soit, la libido n'est pas infinie, et quand on la capte de manière industrielle, ça a des effets sur les autres objets de la libido, par exemple sur les enfants. Ça a des effets sur les structures affectives, qui sont privées d'une partie de la libido dont elles ont besoin, parce que cette libido est détournée sur d'autres objets, et ça crée des ravages. auquel les psychanalystes aujourd'hui s'intéressent beaucoup. Mais par ailleurs, et je dirais que c'est surtout ça dont je vous parlerai ce soir, cette captation de la libido par l'industrie consiste à catégoriser les investissements libidinaux et à particulariser la recherche du singulier. Alors le singulier, ça n'est pas du tout le particulier. Qu'est-ce que c'est que le particulier ? Le particulier, c'est la partie d'un tout. Alors que le singulier, c'est quelque chose qui est en excès sur le tout. Ce n'est pas la partie d'un tout, le singulier. Le singulier, ce qui fait que il porte ce nom de singulier, c'est qu'il est incommensurable. Incommensurable veut dire non calculable, non comparable, non rapportable dans une catégorie à des équivalents. Cela signifie donc que la particularisation de la singularité est contradictoire. Pour le dire autrement, si vous particularisez des singularités, vous détruisez ces singularités. Pourquoi est-ce que le capitalisme, en captant la libido, est condamné à cette destruction de la singularité? C'est parce que la captation de la libido par le capitalisme a pour but la massification des comportements. Et ce que j'appelle l'hypersynchronisation du social. Alors je vais revenir en détail sur ce point tout à l'heure en vous parlant d'un concept qui est central dans mon travail, qui est le concept d'objet temporel. Mais avant de développer ce point, je voudrais revenir sur la question de ce que c'est que la libido. Tout le monde sait que Freud s'est fait connaître et a fait scandale à la fin du 19e siècle en expliquant que les comportements humains sont surdéterminés très profondément, de manière, disons, architectonique, par la structuration sexuelle de la psyché. Et que par conséquent, la libido est foncièrement constituée par le sexuel. Mais, ce qu'on a oublié, c'est que ce qui fait que la libido est une libido et non pas un instinct, c'est que précisément elle est capable de se désexualiser. Les animaux aussi ont une vie sexuelle. Mais ça n'est pas une vie libidinale, il n'y a pas de libido animale. Parce que précisément, la pulsion sexuelle animale, qu'il faut appeler l'instinct sexuel animal, ne peut pas s'investir sur d'autres objets que l'objet sexuel. Alors qu'au contraire, la pulsion sexuelle humaine se transforme en libido, à commencer par le fait qu'elle est capable de différer l'acte sexuel, c'est-à-dire de ne pas passer à l'acte. Et de, d'abord, de faire de son objet sexuel un objet d'amour et non pas simplement de satisfaction sexuelle. Et quand on tombe amoureux de quelqu'un, évidemment, à l'horizon de cet amour, il y a l'union sexuelle, il y a la communion des corps, il y a le désir de fusion, dont, par exemple, Platon parle dans Le Banquet. Mais il y a aussi et surtout la mise à distance de l'objet, l'affirmation de sa singularité, et finalement, sa non-consommation, sa non-consommation. Consommabilité. Plus généralement, la libido, c'est ce qui va, à partir de là, se déplacer vers des objets, par exemple de l'être aimé, qui ne vont plus être des objets sexuels, mais par exemple des objets fétiches. Ça va donner le fétichisme. Et on va se mettre à cultiver, par exemple, un amour pour les objets favoris de l'objet sexuel ou des objets qui représentent à nos yeux l'objet sexuel. Et finalement, ce processus de déplacement de l'énergie libidinale de l'objet sexuel vers d'autres objets, c'est ce qui va progressivement constituer un horizon social. C'est ce qui va constituer un monde d'objets sociaux. Et c'est ce qui ouvre la possibilité de la sublimation. Il y a sublimation chez l'homme de façon originaire et constitutive. L'homme est un être fondamentalement en rapport avec le sublime. Le sublime dont je vous parle ici n'est pas simplement le sublime au sens d'Emmanuel Kant, ou au sens de où Jean-François Lyotard ou Jean-Luc Nancy et un certain nombre de mes amis comme ça ont parlé du sublime. Bien entendu que ce sublime-là fait partie de ce que j'appelle là le sublime. Mais le sublime dont je vous parle maintenant, c'est beaucoup plus vaste que cela. Le sublime dont je vous parle ici, c'est tout ce qui, chez l'homme, tend à faire que l'homme veut s'élever. Il y a un très beau texte de Gilbert Simondon dans Du mode d'existence des jeux techniques, dans la dernière partie qui est consacrée à la religion, où Simondon explique que la société humaine se constitue toujours autour de sommets et organise son espace, son rapport à l'espace, dans l'identification de sommets. Si vous regardez la manière dont des enfants se comportent, si vous les laissez vaquer, s'amuser dans une plaine, et que cette plaine est bordée de collines, ces enfants vont monter très très vite sur ces collines. Il y a quelque chose de spontané et d'immédiat chez l'homme et chez l'enfant qui est la recherche du plus haut. Le plus haut, c'est un fragment de Hölderlin qui s'appelle comme ça et qui est commenté par Maurice Blanchot dans l'Entretien infini dans un texte qui s'appelle L'immédiat. En fait, l'existence humaine conjugue trois plans qui composent, mais qui doivent être maintenus distincts de manière absolue. Ce sont les plans de la subsistance, de l'existence et de la consistance. L'homme est un être vivant, et en tant qu'être vivant, il est confronté à la question de l'économie de sa subsistance. Il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de boire, il a des besoins primaires, comme les appelle parfois Freud, qui sont communs à tous les êtres vivants. Par exemple, aux plantes, les plantes ont besoin de carbone, de lumière, etc. Nous aussi, nous avons besoin de lumière. À l'IRCAM, j'ai un problème, par exemple, c'est que toute une partie du personnel de l'IRCAM travaille en sous-sol. Et ça crée des problèmes de perturbations psychiques, de perturbations physiologiques, etc. Mais l'homme, essentiellement, ne vit pas pour la subsistance. Le plan de vie de l'homme, c'est l'existence. Fondamentalement, ce qui nous anime dans la vie, c'est d'exister. Exister, ce qui veut dire aussi se mettre hors de soi. Exister, ça veut dire aussi s'exprimer, se projeter hors de soi, être au monde. L'homme veut vivre sur un autre plan que celui de sa pure subsistance. Il veut vivre son existence en tant que capacité symbolique, c'est-à-dire que capacité d'expression. Par cette capacité d'expression, qui est aussi une capacité d'impression, comme le dit très bien Paul Klee au début de la théorie d'art moderne, l'être humain veut faire l'expérience du singulier. Et d'abord de sa propre singularité. Dans l'expérience qu'il fait de la singularité de l'autre, l'autre pouvant être une asperge, par exemple l'asperge de Manet, pouvant être l'autre que je rencontre en voyage, ou l'autre avec qui je parle, moi par exemple que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Mais l'autre qui est aussi en moi, et dont celui que je rencontre me permet la rencontre, en fait. Quand je rencontre dans un autre l'altérité de l'autre, grâce à l'altérité de l'autre, c'est mon altérité que je rencontre. C'est ma singularité qui s'exprime grâce à l'expression de la singularité de l'autre. Ça constitue un circuit. J'appelle ça le circuit du désir. À travers donc cette expérience de la singularité, l'homme s'élève. C'est cela l'élévation de l'humain. Et c'est son penchant le plus propre que de rechercher cette capacité de s'élever. Mais ce penchant, évidemment, n'est pas son seul penchant. Il a également un penchant à la chute. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, ce désir d'élévation de l'être humain le tourne vers ce que j'appelle les consistances. Les consistances, ce ne sont ni les subsistances, ni les existences. Les consistances n'existent pas. Et c'est en cela qu'elles consistent. Ce qui n'existe pas, c'est aussi le singulier. Car le singulier n'existe pas. Aristote le dit très bien dans le traité de l'âme. Du singulier, on ne peut jamais accéder à sa singularité. Il est toujours déjà en train d'être perdu, parce que quand je veux juger de la singularité d'une œuvre, par exemple, je veux la comparer, et je dois la comparer, pour en juger. Et dans la comparaison, je la perds. Ce qui veut dire que toujours déjà, mon jugement appelle un autre jugement, une autre expérience de cette œuvre ou d'autres œuvres, etc. Dire que la consistance n'existe pas et que la consistance, c'est la consistance du singulier, ça veut dire que le singulier et la consistance ne sont pas calculables. Ce qui existe, c'est ce qui est calculable. Mais il y a des choses qui n'existent pas. Par exemple, le triangle n'existe pas. Ça peut vous paraître surprenant de dire que le triangle n'existe pas. Mais le triangle, si vous lisez les définitions de Euclide, c'est une idéalité mathématique. Qu'est-ce qu'un triangle ? C'est une figure à trois côtés, constituée par l'intersection de trois lignes. Qu'est-ce qu'une ligne ? C'est un ensemble de points. Qu'est-ce qu'un point ? C'est le croisement de deux lignes. Et un point, qui est donc ce qui est définitoire de la ligne qui elle-même définit la surface, un point n'a ni volume ni surface. Par conséquent, il n'existe pas. Vous ne trouverez jamais un point dans l'espace. Pour penser l'espace, vous avez besoin d'idéaliser un concept qui est le concept du point, mais jamais vous ne trouverez un point dans l'espace. Donc il n'y a pas de triangle dans l'espace. Il y a dans l'espace des formes triangulaires, mais le triangle, lui, n'est pas dans l'espace. Le beau, dont Emmanuel Kant dit dans la critique du jugement esthétique qu'il est l'objet d'un jugement réfléchissant et non pas d'un jugement déterminant, c'est cette catégorie qui fait que lorsque vous regardez un paysage ou une œuvre et que vous jugez que votre objet, l'objet de votre regard, est beau, vous incluez dans votre jugement que votre jugement de beau devrait être universalisable, à la différence du jugement de l'agréable. Si vous regardez une sculpture, par exemple, et vous dites cette sculpture est belle, vous posez en principe que tout le monde devrait la trouver belle, en fait, en droit. Mais vous savez qu'en fait, tout le monde ne la trouve pas belle. Et vous savez que jamais vous ne pourrez imposer à quiconque de trouver cette œuvre belle. Cela veut dire que vous ne pouvez pas démontrer la beauté de l'œuvre. Ça veut dire qu'elle n'est pas probable. Vous ne pouvez pas la prouver. La beauté de l'œuvre n'est donc pas probable, ce qui veut dire, comme dit Yves Bonnefoy, qu'elle est improbable. Le beau est structurellement, intrinsèquement, improbable. Il n'est pas sur le plan de l'existence, c'est-à-dire du fait. Il est le plan de la consistance. Une œuvre est belle en droit, mais pas en fait. La justice n'existe pas. Vous savez bien que la justice n'existe pas. Vous savez bien, je pense, on peut discuter de ça, on peut contester mon propos, mais je pense qu'au XXe siècle, au XXIe siècle maintenant, nous savons que la volonté de faire exister la justice, absolument sur Terre, conduit en enfer. Nous savons que la volonté d'imposer une vie juste à tous conduit à une injustice absolue. Je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes d'accord sur ce point. Mais qui d'entre nous oserait prétendre pour autant que nous pouvons renoncer à la justice? Qui d'entre nous serait capable de vivre en se disant « Bon, il n'y a pas de justice, la justice n'existe pas, donc je me fous de la justice ?» Je pense que personne ne peut penser comme ça. La justice n'existe pas, mais elle consiste. Le beau n'existe pas, mais il consiste. Le triangle n'existe pas, mais il consiste. La vérité même n'existe pas, mais elle consiste. La vérité, la beauté, la justice, les idéalités mathématiques, les idéalités scientifiques, l'esprit en général, c'est ce qui donne à l'existence sa consistance. Et ça n'existe pas. Pas plus que l'infinité de mon amour. Mon amour n'est pas infini. L'infinité de mon amour n'existe pas. Mais mon amour ne consiste que s'il est capable de projeter son infinité à l'infini, si je puis dire, dans une structure de ce que Jacques Derrida aurait peut-être appelé une promesse. Mon amour n'est pas infini, mon amour est fini, mais je n'aime que dans la consistance infinie de mon amour. Tout cela conduit au fait que l'incalculable, l'incalculabilité du singulier sous toutes ses formes très diverses que sont les consistances qui sont des règnes de l'esprit, compte tenu du fait que cela n'existe pas, il faut le cultiver. Cela n'existe pas, mais c'est nécessaire à l'existence. Et il faut le cultiver pour que cela consiste. C'est pour cela que toutes les civilisations humaines ont toujours reposé sur des cultes. Ces cultes cultivant des croyances, pas forcément des croyances religieuses. Ça peut être des pratiques qui consistent, par exemple, à entretenir en soi l'idée de la musique, le savoir de la musique, le désir de la musique. C'est ce que font tous les musiciens tous les matins lorsqu'ils travaillent leur instrument. L'objet du culte qu'est la consistance, c'est ce dont il faut entretenir l'idée, précisément parce que cela n'existe pas. Et c'est cela que Hölderlin appelle le plus haut. Et c'est cela que j'appelle le sublime. Aucune structure d'existence humaine ne peut tenir sans une capacité à projeter cette sublimation. Or, la captation industrielle de la libido, qui a commencé au début du XXe siècle, et qui vise à particulariser le singulier, c'est-à-dire à le rendre calculable, et donc à le nier, induit la destruction des consistances, et par conséquent l'indifférenciation entre l'existence et la subsistance. C'est ce qui conduit à ce que Gilles Châtelet, mon ami Gilles Châtelet, qui s'est suicidé il y a maintenant plusieurs années, avait appelé « vivre et penser comme des porcs ». Nous sommes dans une société qui nous incite à vivre et penser comme des porcs. Et c'est ainsi parce que le capitalisme, aujourd'hui, a besoin de soumettre toutes les conditions de l'existence aux impératifs de la subsistance. Car qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? C'est la généralisation hégémonique des contraintes de la subsistance à toutes les formes de vie. Et ce processus se traduit par ce que j'ai appelé dans mon dernier livre la prolétarisation du consommateur. Qu'est-ce qu'un prolétaire ? On a beaucoup cru, moi-même j'ai beaucoup cru lorsque j'étais militant du Parti communiste français, qu'un prolétaire c'était un ouvrier. Et puis il y a quelques années je me suis dit qu'il faudrait que je relise Marx. Et je me suis aperçu que Marx n'a jamais dit que le prolétaire était un ouvrier. Marx a dit que toutes les couches de la société qui travaillent étaient appelées à se prolétariser. C'était un grand drame de la pensée marxiste, toute tendance confondue, de croire que le prolétariat était la classe ouvrière. Le prolétariat, c'est pas la classe ouvrière. Le prolétariat, ce sont tous les travailleurs qui voient leur savoir-faire, leur échapper, parce qu'ils passent dans des machines et dans des dispositifs dont ces travailleurs deviennent les servants. Le prolétaire, comme l'a très bien dit Gilbert Simondon, qui a très bien lu Marx, c'est celui qui est privé de ses savoir-faire, et qui, en tant qu'il est privé de ses savoir-faire, est privé de sa capacité de s'individuer, c'est-à-dire de se singulariser dans son travail. Au XXe siècle, se produit la prolétarisation non plus du producteur, qui a été accompli au XIXe siècle, avec le développement du prolétariat, qui effectivement est essentiellement, ce qui concerne au XIXe siècle, la classe ouvrière, qui va se poursuivre, la prolétarisation du producteur au XXe siècle et même au XXIe siècle. Aujourd'hui, ce sont les médecins qui sont prolétarisés. Regardez comment travaillent les médecins avec les systèmes informatiques. Ils sont de moins en moins des gens qui sont, possèdent un savoir-faire et de plus en plus des servants de systèmes à servir des médicaments. Mais au XXe siècle, une autre prolétarisation se produit qui conduit à ce que j'appelle la prolétarisation généralisée, et c'est la prolétarisation du consommateur. Le consommateur, c'est celui qui perd non plus ses savoir-faire simplement. Il les a déjà perdus en tant que producteur, il perd ses savoir-vivre. Car l'existence, ça consiste en des savoir-vivre. Qu'il faut sans cesse apprendre à vivre, enfin. Aujourd'hui, les savoir-vivre sont, comme on dit, designés par la société hyper-industrielle, par le marketing. Rifkin a très bien expliqué ça. Je vous recommande de lire, si vous ne l'avez pas fait, le bouquin de Rifkin qui s'appelle « L'âge de l'accès », qui a beaucoup de défauts, dans lequel Rifkin dit pas mal de bêtises, par exemple sur l'espace, sur la propriété, etc. Mais il pose un problème extrêmement intéressant, qui est la mutation du capitalisme qui devient culturel, et dont il montre que le capitalisme culturel consiste essentiellement à standardiser les modes de vie, c'est-à-dire à détruire les existences. Et il montre ça sur des tas d'exemples, dont par exemple le développement de ce qu'on appelle les CID, les communautés d'intérêt, je ne me souviens plus de ce que ça veut dire, du développement complet de ce sigle. Aujourd'hui, le contrôle esthétique se développe dans toutes les couches de l'existence humaine pour détruire, finalement, les barrières esthétiques que constituent les économies libidinales et sublimatoires que sont les civilisations. Pourquoi le capitalisme a-t-il besoin de détruire ces barrières esthétiques ? Eh bien, tout simplement, parce que ces barrières esthétiques sont des barrières à la consommation mondiale, tout comme les barrières géographiques, tout comme les barrières économiques, etc. Et de la même manière qu'il a fallu supprimer les frontières et les douanes, de la même manière qu'il a fallu dépasser les barrières géographiques en développant les transports, la circulation des marchandises, etc., il faut aujourd'hui détruire les barrières symboliques. Le problème est que ces barrières symboliques sont les mondes symboliques, c'est-à-dire sont le symbolique en tant que tel. Quand un industriel de l'automobile aujourd'hui lance un nouveau modèle sur le marché, il faut qu'il distribue ce modèle en Asie, en Australie, en Afrique, bien que l'Afrique soit pas très solvable, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Et il faut donc qu'il fasse pénétrer cet objet et qu'il le socialise dans une très grande diversité culturelle. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de réaliser des économies d'échelle. Une économie d'échelle, c'est le fait que un modèle d'une voiture comme la C5 de Citroën, en un exemplaire, ça coûte 1 milliard d'euros. C'est le coût de production du prototype. Et en vendu chez des concessionnaires, ça doit être vendu 10 ou 15 000 euros. Donc, il faut réaliser des économies d'échelle. Et il faut produire ça en très grande quantité. Le développement du contrôle esthétique pour faire tomber les barrières esthétiques par le capitalisme, c'est ce qui tend à faire adopter des comportements de consommation identiques dans de très très grandes masses d'individus aujourd'hui au niveau planétaire. Et ce qui permet ce développement, c'est l'apparition au début du XXe siècle de ce que j'appelle les objets temporels industriels. Car finalement, le contrôle de la libido par l'industrie se réalise d'abord et principalement par le contrôle des flux audiovisuels qui traversent les consciences des consommateurs du monde entier. Si donc nous voulons comprendre ce qui est en jeu dans ce dont je vous parle, il faut que nous fassions un détour par la théorie husserlienne de l'objet temporel. Husserl, un philosophe allemand, a développé un concept donc d'objet temporel, Zeitobjekt en allemand, parce qu'il voulait comprendre la temporalité de la conscience, la manière dont la conscience se déroule dans le temps, et comment l'écoulement du flux de la conscience se constitue, par quelle structure et par quel dispositif, en particulier de rétention et de protension, comme dit Husserl. L'objet temporel de Husserl, c'est l'objet temporel que Husserl a élu comme objet de ses analyses phénoménologiques, c'est la mélodie. Un objet temporel, c'est un objet qui est constitué par le temps de son écoulement. C'est un flux. Il n'apparaît qu'en disparaissant. Autrement dit, il passe. Si Husserl étudie l'objet temporel, qu'est la mélodie, c'est parce que la conscience est également temporelle en ce sens-là. Vous êtes, par exemple, des consciences qui m'écoutez, je vous en remercie, et vous êtes en train de vous écouler en même temps que mon discours s'écoule et que je m'écoule moi-même avec mon discours. Vous ne vous écoulerez pas tout le temps. Un jour, cet écoulement s'arrêtera. Ce sera votre mort. Et vous ne vous êtes pas toujours écoulé. Vous avez commencé à vous écouler à partir de votre naissance. Un objet temporel a aussi un début et une fin, comme notre conscience a un début et une fin. La conscience est temporelle dans ce sens-là. Un objet temporel a un début et une fin, et entre le début et la fin, il y a un flux qui s'écoule. Un objet temporel est constitué par le fait que, comme les consciences dont il est l'objet commun éventuellement, il s'écoule et disparaît à mesure qu'il apparaît. Un jeu est une conscience consistant en un flux temporel qui est constitué de ce que Husserl, c'est sa grande découverte, appelle des rétentions primaires. La rétention primaire, c'est ce que la conscience retient et maintient dans le maintenant du flux en quoi elle consiste. Prenons un exemple. Vous écoutez une mélodie. Cette mélodie est jouée depuis 5 minutes. À la 5e minute, vous entendez un « la ». Mais cela est constitué comme « la » dans la mesure où il est articulé avec la note qu'il précède, qui est par exemple un si bémol, et qui va faire que entre ces deux fréquences sonores, qui ne sont pas des notes, va s'installer un intervalle dans la relation entre les deux qui va en faire précisément un intervalle musical. Ce qui fait qu'un « la » est un « la », c'est qu'il entretient avec la note qui le précède et avec la note qui le suit des relations constituantes, qu'on appelle des intervalles en musique. Husserl dit « la note qui précède est une rétention primaire ». Pourquoi primaire ? Parce qu'elle est retenue dans la note qui suit de manière primordiale, constitutive. Le « la » que j'écoute est constitué par le si bémol qui l'a précédé. Donc le si bémol est encore présent dans le « la », sinon ce ne serait pas un « la », ça serait un son, une vibration, une fréquence. Et par ailleurs, cela est en attente d'une note qui va suivre, que Husserl appelle une protension. Autrement dit, dans le « la » en question, la note précédente n'est pas absente. Elle est encore là, si j'ose dire, maintenue dans et par le « maintenant » de cette note qui s'inscrit elle-même dans la mélodie. Elle constitue la note qui la suit en formant avec elle ce rapport qu'on appelle un intervalle. Mais étant donné que la note qui précède le si bémol est elle-même précédée par une autre note qui la constitue, ça veut dire que ce si bémol retient lui-même primairement la note qui le précède, et ceci jusqu'à la première note de la mélodie. Ce qui signifie que, dans le « la » qui est en train de sonner en ce moment, toutes les notes qui précèdent sont retenues à travers le si bémol. Et c'est ça qui constitue la conscience d'unité de cette mélodie. En ce moment même, vous m'écoutez. Si vous êtes attentif, ce qui n'est pas forcément le cas, mais si vous êtes attentif, Vous agrégez ce que je viens de dire à la phrase précédente, qu'elle-même vous agrégez à la phrase précédente, et vous essayez de comprendre où je veux en venir. Qu'est-ce qui fait l'unité de mon discours? Et finalement, quand vous sortirez de cette conférence, vous direz peut-être tout à l'heure, j'ai écouté la conférence d'un type qui s'appelle Bernard Stiegler. Et en gros, il m'a dit ça. Voilà l'unité de ce propos. Vous êtes en train de rétentionnaliser primairement dans les mots que je prononce. Vous n'entendez pas tous la même chose dans ce que je dis. Chacun d'entre vous, si je vous demandais maintenant qu'est-ce que j'ai dit finalement, probablement me dirait des choses différentes. Ces choses, tout en étant très différentes, pourraient être très bonnes, toutes, pas forcément. C'est parce que vous sélectionnez dans ce que je dis. Si vous écoutez le Sacre du Printemps de Stravinsky, où il y a un dispositif instrumental assez copieux, si vous l'écoutez pour la centième fois, vous allez vous apercevoir que, l'interprétation de Pierre Boulez par exemple, vous allez l'écouter pour la centième fois, vous allez vous apercevoir à la centième fois que vous découvrez des choses que vous n'aviez pas entendues. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous entendez une mélodie, une deuxième fois, une dixième fois, une centième fois, le phénomène de l'objet que vous écoutez varie. Une différence se produit dans la répétition. On va essayer de comprendre pourquoi ceci se produit. En réalité, quand vous m'écoutez, vous faites des rétentions primaires, mais ces rétentions primaires, ce sont des sélections primaires. Et ces sélections primaires signifient que dans ce qui peut être retenu dans un objet temporel, vous ne retenez pas tout ce qui peut être retenu. Si vous écoutez deux fois de suite la même mélodie, vous apercevez que la conscience de l'objet change. L'objet n'a pas changé, c'est la même mélodie, c'est le même CD que vous passez, mais la conscience de l'objet change à chaque fois. D'où vient ce changement? Eh bien, il vient du fait que vous-même vous avez changé. D'abord parce que vous avez entendu cette mélodie une première fois, alors que la première fois que vous l'avez écoutée, vous ne l'aviez jamais entendue. Ça signifie que vous sélectionnez primairement d'une manière différente la deuxième fois parce que vous avez des rétentions secondaires différentes. Qu'est-ce que sont les rétentions secondaires? Eh bien, ce sont des souvenirs qui sont des rétentions primaires que vous avez faites dans une perception et qui sont devenues du passé, que vous avez donc transformées en passé et qui maintenant sont votre expérience. Depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans que vous vivez, vous n'arrêtez pas d'agréger des rétentions primaires. Ces rétentions primaires, à un moment donné, deviennent du passé. Par exemple, cette conférence sera finie tout à l'heure, et tout à l'heure vous direz « j'ai écouté Stiegler qui parlait tout à l'heure ». En ce moment, vous ne dites pas « j'ai écouté Stiegler », vous dites « j'écoute Stiegler ». Même par rapport à la première phrase que j'ai prononcée dans ma conférence, vous ne dites pas « j'ai écouté la première phrase de Stiegler tout à l'heure ». Non, vous êtes encore en train d'écouter ma première phrase. Vous essayez de la développer dans les phrases que je suis en train de prononcer en ce moment. Mais ce soir ou demain, ce que j'ai dit, ça sera du passé. Et ça sera rentré dans votre expérience. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez reçu comme phénomène, une mélodie que vous avez entendue ou jouée, une phrase que vous avez entendue ou prononcée, une séquence de gestes ou d'actions que vous avez reçues ou que vous avez commises, tout ce que vous faites dans la vie, tous vos actes sont des tissus, des trames de rétention primaire qui se transforment en rétention secondaire. Mais ces rétentions secondaires deviennent des critères et des filtres pour accéder aux rétentions primaires qui vont venir. C'est-à-dire que vous accédez aux phénomènes nouveaux qui vous arrivent à partir des phénomènes anciens qui vous sont déjà arrivés. Et c'est à partir de cela que vous vous individuez. Et que vous faites quoi? Que vous accédez à votre singularité. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Cela étant, les rétentions primaires sont donc agencées et sélectionnées par les rétentions secondaires, et deviennent elles-mêmes ensuite des rétentions secondaires, mais les relations entre les rétentions primaires et les rétentions secondaires passent par ce que j'appelle des rétentions tertiaires. Par exemple, vous pouvez réécouter le Sacre du Printemps de Stravinsky enregistré par Boulez 100 fois de suite si ça vous amuse. Mais ça, vous ne pouvez le faire que depuis peu de temps. Nous ne pouvons faire ce genre de choses que depuis 1877, depuis que Thomas Edison a inventé le phonographe. À vrai dire, à l'époque de Thomas Edison, vous ne pouviez pas vraiment faire ça. Parce que le premier enregistrement d'Edison, vous ne pouviez écouter que 5 fois. Au bout de 5 fois, il était détruit. Aujourd'hui, en principe, en fait, c'est pas tout à fait vrai, mais en principe, vous pouvez écouter un compact disque autant de fois que vous voulez sans que le signal soit dégradé. Il y a une histoire technologique des rétentions tertiaires. L'histoire de l'humanité est l'histoire de l'évolution des rétentions tertiaires. Car une rétention tertiaire, c'est n'importe quel objet en tant qu'il est un objet de mémoire. Or, tout objet humain est un objet de mémoire. C'est ce que les archéologues vous apprennent. Pour un archéologue, un tesson de bouteille est un objet de mémoire. Une flèche taillée est un objet de mémoire. Une trace funéraire est un objet de mémoire. Un livre, encore plus, est un objet de mémoire, etc., etc. Ici, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, on produit des rétentions tertiaires, qui peuvent être des objets de design ou des œuvres. Parce que les œuvres aussi sont des rétentions tertiaires. Tous les objets du monde sont des rétentions tertiaires. Et ces rétentions tertiaires surdéterminent les conditions dans lesquelles nous sommes capables d'articuler entre elles des rétentions primaires et des rétentions secondaires. Il y a par exemple un objet qu'étudie Pascal, qui est très intéressant, qui s'appelle le chapelet. Et dont il dit, il faut des pratiques d'objets de ce type de répétition pour supporter la foi. Il y a des techniques qui sont des objets du culte. Alors ces objets du culte, ça peut être le calice, ça peut être l'hostie, ça peut être toutes sortes de choses. Et qui permettent d'agencer des répétitions de rétention primaire et de rétention secondaire pour cultiver quoi ? Ce que j'appelais tout à l'heure des consistances. À l'époque de Pascal, la consistance des consistances s'appelle Dieu. Nous, nous vivons dans une époque et une société où Dieu est mort. Et cette mort de Dieu, c'est la mort d'un certain régime d'articulation entre les rétentions primaires, les rétentions secondaires et les rétentions tertiaires. Et c'est l'apparition d'un nouveau type de rétention tertiaire, qui sont les rétentions tertiaires industrielles. Alors je vais y revenir tout à l'heure en conclusion, et il faut que j'accélère parce que combien de temps
Ah, principe 1h30, mais bon, vous avez encore 5 bonnes minutes, disons.
5 bonnes minutes. Si c'est 1h30, il me reste un peu plus.
Oui, absolument.
Je suis différent de mes voisins parce que j'ai des rétentions secondaires qui sont différentes de mes voisins. Lorsque vous m'écoutez en ce moment, je suis sûr que chacun d'entre vous entend des choses différentes dans ce que je dis. C'est parce que chacun d'entre vous a une expérience passée différente de l'autre, de son voisin. Qu'est-ce que cherche à faire le capitalisme en développant des objets temporels industriels ? Il cherche à faire en sorte qu'il contrôle totalement, par la monopolisation d'un certain type de rétention tertiaire, les appareils de télévision, les appareils de radio, ce qu'on appelle les grands médias, il cherche à contrôler les flux de conscience qu'il tente de capter de plus en plus, de manière hégémonique, pour faire en sorte que les rétentions primaires que les individus enregistrent et qu'ils transforment en rétentions secondaires soient de plus en plus homogénéisées, que par exemple on fidélise des audiences, ces audiences dont Patrick Lelay dit qu'il les vend à Coca-Cola, pour les rendre, comme il dit, disponibles à Coca-Cola. Et comment est-ce qu'on peut rendre des consciences ou des temps de cerveau disponibles à Coca-Cola en leur imposant une rétentionnalisation standardisée et industrielle, de manière totalement homogène, et en renforçant des comportements de consommation par le contrôle des rétentions secondaires, et de la manière dont ces rétentions secondaires vont donc filtrer les rétentions primaires, d'une manière identique. Et évidemment, ce dont je vous parle là est une tendance. C'est une tendance qu'on ne peut pas accomplir en totalité, heureusement. Si l'industrie arrivait à accomplir cela en totalité, nous vivrions dans un monde entièrement psychotique. Nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Même si, il y a 1 an et demi, j'ai fait une conférence devant des psychanalystes où je parlais de ces questions et ils m'ont répondu qu'ils étaient confrontés au problème de la disparition de la névrose au profit de la psychose. Du fait de ce dont je vous parle. Ce dont je vous parle, c'est la perte de singularité. Si j'arrive à contrôler vos processus rétentionnels en sorte que ils ressemblent de plus en plus à vos voisins, je vous particularise et je vous désingularise. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'en contrôlant vos rétentions, je contrôle vos protentions. Qu'est-ce que sont les protentions? Ce sont les horizons d'attente. Ce que tente de contrôler le marketing, ce sont vos attentes. Il cherche à susciter des attentes en vous et à être capable de les contrôler totalement. Alors, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, un processus de destruction de la singularité s'est mis en place, qui a été induit par ce que j'ai appelé, dans un livre qui va sortir bientôt, le tournant machinique de la sensibilité. Pourquoi tournant machinique de la sensibilité? Parce que les appareils qui sont apparus au 19e siècle, l'appareil photo, le phonographe, la radio ensuite, la télévision, toutes ces machines symboliques sont des machines qui, comme les machines de production qui prolétarisent l'ouvrier, conduisent à la prolétarisation du consommateur dans la mesure où le consommateur se trouve progressivement exproprié de son pouvoir rétentionnel et protentionnel et devient une marchandise, parce qu'en fait le consommateur est lui-même une marchandise. Il est un marché, c'est le marché de ce qu'on appelle les audiences. J'avais calculé, 5 ans presque avant que Patrick Lelay ne fasse sa déclaration, le prix de la conscience sur TF1. C'est très facile à calculer. Si vous avez, pendant le prime time, 15 millions de téléspectateurs, 3 millions de recettes nettes de publicité, vous faites la division en francs. C'était à l'époque des francs, quand j'avais fait ce calcul, vous valez 20 centimes de l'heure sur TF1. Et il y a une guerre pour le contrôle des audiences dans l'industrie contemporaine. Cette guerre consiste à essayer de faire la conscience à 10 centimes de l'heure, ou à 5 centimes de l'heure. Pour mener cette guerre, il faut pulsionnaliser l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut délier son désir, et il faut cultiver en lui sa tendance régressive. Et je conclurai par là. Je conclurai par là et par une proposition politique et programmatique. Je vous disais tout à l'heure, l'homme a tendance à s'élever. Mais comme je l'ai dit dans mes créances et discrédits, et c'est pas moi évidemment, je ne faisais que reprendre des propos de Nietzsche, de Bergson, de Freud, d'une certaine manière de Saussure aussi. Une tendance n'existe que par rapport à une contre-tendance. Si j'ai tendance à m'élever, c'est parce que j'ai contre-tendance à m'abaisser. Je suis tiraillé entre le désir de l'élévation et, comme le dit Maurice Blanchot, le plaisir extrême de tomber. Le philosophe auquel je me réfère en priorité, en tout cas ces derniers mois, pour penser tout cela, c'est Aristote. Aristote a écrit un texte extrêmement important, très mal lu par la tradition philosophique jusqu'à maintenant, qui a été rendu incompréhensible par le thomisme, c'est-à-dire par la tradition chrétienne qui s'est emparée d'Aristote au Moyen-Âge. Ce texte s'appelle le Peripsuches, le traité de l'âme, De Anima en latin. Dans ce texte, Aristote explique qu'il y a 3 types d'âmes. Alors, il appelle âme les êtres en mouvement, les êtres animés, puisque âme se dit animus en latin, c'est être animé, c'est avoir une âme. Mais avoir une âme, ça veut dire être en mouvement. Il dit qu'il y a 3 types d'âmes. Il y a les âmes végétatives, qu'il appelle également nutritives. Si vous voulez, c'est ce qu'on aurait envie d'appeler les plantes. L'âme nutritive est essentiellement animée par le désir. Enfin, pas par le désir, par le mouvement de se nourrir. C'est la plante. Et puis, il y a l'âme sensitive, aesthésique, je l'appelle comme ça, puisque en grec c'est l'aesthésis. Cette âme-là, souvent, la plupart du temps même, elle se comporte nutritivement. C'est-à-dire qu'elle se comporte comme une plante. Mais de temps en temps, elle passe à son acte. Parce que quand elle se comporte comme une plante, elle n'est qu'en puissance sensitive. Elle n'est pas sensitive en acte. Elle est sensitive en puissance, ce qui veut dire qu'elle peut être sensitive, mais qu'elle n'est pas actuellement sensitive. par exemple, c'est le taureau qui broute dans une prairie. Il se comporte comme une plante, il se nourrit. Et puis, il y a une époque de l'année, en général au printemps, où subitement, il pense moins à se nourrir qu'à passer à l'acte sexuel. Éventuellement, dans ce cas-là, il va être prêt à se battre avec un autre mâle. C'est-à-dire qu'il va venir contrarier ce qui anime sa nutritivité, qui est son instinct de conservation. Il va être prêt à se battre à mort avec un mâle. Pour quoi faire, finalement? Pour satisfaire la nécessité de la reproduction de l'espèce et que le plus fort gagne. Et puis ensuite, il va retomber au niveau de l'âme nutritive. C'est-à-dire qu'il va repasser à l'âme sensitive en puissance, mais pas en acte. Puis il y a une troisième, il y a un troisième type d'âme que Aristote appelle l'âme noétique. L'âme noétique, c'est une âme qui ne se contente pas de se nourrir, elle se nourrit aussi. Elle a un foie, elle a un système nerveux qui envoie de temps en temps des sucs gastriques ou des informations qui dit il est temps d'aller manger. Elle ne se contente pas de vouloir se reproduire et de reproduire l'espèce en passant à l'acte sexuel, mais elle passe sur un troisième plan qui est le plan de ce que donc Aristote appelle le nous. Alors parfois on traduit par intellect et parfois on traduit par esprit. Moi je préfère traduire par esprit. C'est l'âme qui sublime. C'est l'âme qui désire. Ces trois types d'âmes, Aristote dit, ce sont des modalités de rapport à Dieu. Mais Dieu, chez Aristote, vous savez qu'à l'époque d'Aristote, les Grecs ne parlent pas de Dieu, ils parlent des dieux. Aristote, après Platon, parle de Dieu, c'est-à-dire de Dieu en un sens unique. Bien qu'il ne soit pas encore dans le monothéisme, on n'est pas dans le monothéisme, il faut attendre saint Paul. Enfin, il y a le judaïsme, bien évidemment, mais en Grèce, la synthèse entre la Grèce et le judaïsme ne s'est pas encore faite. Donc le monde grec est polythéiste. Mais Aristote parle du Dieu. Alors, entendez bien que le Dieu d'Aristote, c'est pas du tout le Dieu du monothéisme. C'est la convergence de toutes les consistances, si je parle dans mon langage. C'est le motif du désir. Car finalement, Aristote dit, Dieu, c'est ce que les plantes, les animaux et les hommes désirent. C'est ce qui les met en mouvement. C'est le principe de leur mouvement, c'est-à-dire de leur émotion. Il y a des émotions nutritives, il y a des émotions sensitives, il y a des émotions noétiques. Cependant, Aristote dit aussi, nous sommes des âmes noétiques, mais la plupart du temps, nous ne sommes noétiques qu'en puissance. Nous ne sommes pas noétiques en acte. Cultiver la philosophie. Cultiver la poésie, cultiver toutes les consistances dont je vous parlais tout à l'heure, c'est chercher à être toujours en acte. Mais dans Métaphysique Alpha, Aristote dit « Seul Dieu est toujours en acte ». Nous, nous ne sommes pas toujours en acte. Nous avons sans cesse besoin de remonter pour passer à l'acte, mais nous avons une tendance inéluctable à retomber. Nous sommes constitués par ces deux tendances. La tendance à l'élévation, c'est-à-dire au passage à l'acte, et la tendance à la régression, c'est-à-dire au retour à la puissance. Le capitalisme contemporain exploite cette tendance régressive. Car le passage à l'acte, c'est le passage à l'affirmation de la singularité absolue du sublime. C'est ce qui n'est pas calculable. Si l'industrie contemporaine peut exploiter les pulsions, c'est parce que nous avons les tendances régressives, exactement, de la pulsion, c'est parce que ces tendances, nous les portons en nous-mêmes, intrinsèquement. Donc le problème n'est pas simplement de condamner les tendances actuelles du capitalisme à décomposer le désir et à le faire déchoir au niveau du pulsionnel non lié, c'est-à-dire non sublimé. La question, c'est d'abord de comprendre quels sont les rapports entre le désir et finalement, je terminerai là-dessus, la technique. C'est-à-dire les rétentions tertiaires. Je viens de vous dire que le désir, ce sont les pulsions liées. Ce dont je viens de parler au titre d'Aristote, j'aurais pu en parler au titre de Freud. Dans Au-delà du principe du plaisir, Freud explique que le désir est constitué par deux tendances. exactement deux pulsions. La pulsion de vie et la pulsion de mort. Et ce qui fait que le désir est le désir, c'est qu'il articule ces deux pulsions et qu'il compose avec elles une résultante qui est le désir en tant que capacité de sublimation. Le désir doit être lié. Cette liaison du désir, Freud et Lacan surtout l'appellent la loi. Cette loi est ce qui doit être cultivé. C'est donc ce qui constitue ce qu'on appelle aussi la surmoïsation, le surmoi. Aujourd'hui, le capitalisme détruit la surmoïsation, car c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui avec le capitalisme. C'est pour ça que le capitalisme est en très grand danger, il est en voie d'autodestruction. Car une société sans surmoi, une société sans processus de sublimation ne peut pas fonctionner. Ce processus de captation de la libido que le capitalisme a mis en œuvre vient des appareils qui permettent le contrôle rétentionnel, à savoir les appareils audiovisuels dont je vous parlais tout à l'heure, mais pas simplement les appareils audiovisuels. Il faudrait parler de tout ce qui permet de contrôler des séquences, y compris algorithmiques, etc. Donc aujourd'hui, tout le numérique. C'est un dispositif de rétention tertiaire. J'essaye aujourd'hui de mener un combat dans mon travail, et aussi dans mon travail à l'IRCAM, mais aussi dans mon travail intellectuel, pour démontrer que une politique des rétentions tertiaires, que sont les appareils qui permettent cette, on aurait dit il y a quelques années, cette aliénation de la libido. Une telle politique peut permettre non pas d'aliéner cette libido, mais au contraire de l'intensifier, de l'activer, de lui permettre de trouver les voies d'une nouvelle sublimation. Et j'en suis tout à fait convaincu. Lorsque Platon a écrit Le Banquet, qui est un magnifique texte sur le désir, lorsqu'il a écrit La République, qui est un texte où il condamne la musique, les poètes, et qui est un texte contre le désir, deux textes qui s'opposent dans la métaphysique de Platon. Et Platon est pris dans d'inextricables contradictions qui feront l'objet du quatrième tome de La Technique et le Temps. J'espère sortir au mois d'octobre. Il est confronté à l'existence dans la cité des sophistes. Que leur reproche-t-il ? Il leur reproche d'utiliser une nouvelle technique qui est apparue depuis peu de temps en Grèce, depuis un siècle ou deux, qui s'appelle l'écriture alphabétique. Il leur reproche d'utiliser l'écriture alphabétique pour contrôler et conditionner la doxa, c'est-à-dire l'opinion publique qui constitue la cité, et à travers ces rétentions tertiaires qui permettent de fasciner un public en ayant un texte préparé par derrière, de faire ce que fait finalement TF1, c'est-à-dire de capter l'attention de la cité pour la contrôler, non pas pour un contrôle économique, puisqu'à l'époque c'est pas ça le sujet des sophistes, c'est le contrôle politique. Et donc Platon va engager un combat contre cette manière de mettre en œuvre des rétentions tertiaires dont il estime qu'elle est destructive pour la cité. Alors je ne suis pas un platonicien, mais en revanche je pense que ce qui s'est joué entre la sophistique et la politique autour de la question de l'écriture en Grèce ancienne, il y a donc 2500 ans, se rejoue aujourd'hui à nouveau frais, bien évidemment, avec les technologies numériques, qui sont des technologies de contrôle, des sociétés de contrôle. Je vous dis tout cela parce que je crois que à l'école des arts décoratifs, comme à l'IRCAM, comme dans toutes sortes de lieux de ce type, comme ce devrait être aussi le cas dans les universités, nous sommes astreints aujourd'hui à mener une lutte pour penser de nouveaux agencements entre ces trois types de rétention et à mener cette lutte pour faire en sorte que se reconstitue de la capacité à distinguer les subsistances, les existences et les consistances. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y aura peut-être...
Il y a une tradition de questions, mais je pense qu'après un tel discours, c'est pas facile de prendre la parole, mais je vous y conduis et je vous y invite vivement. Justement, il y a quelque chose qui me paraît avoir été mis en lumière encore ce soir, une fois de plus, c'est cette méthode du philosophe qui prend son origine dans ce mot méthodos, qui est l'évocation même du mouvement. Du cheminement. Et je crois que ce cheminement de la pensée qui vous a été proposé ce soir nous aidera peut-être à faire un sacré petit bout de chemin. Je vous remercie.
Merci à vous.
Bonne soirée. Merci.